Dans le cadre du 46e Festival international du film de Karlovy Vary, le film Ni à vendre ni à louer de Pascal Rabaté était le seul film français à être présenté en compétition officielle. À l'heure où nous diffusons cette interview, le palmarès du festival n'était pas encore connu. Dans l'émission d'aujourd'hui, Anna Kubishta accueille Pascal Rabaté autour de BD, mais qui est passé derrière la caméra pour la deuxième fois après son premier long métrage, Les Petits Ruisseaux, adapté de sa BD éponyme.
Culture sans frontières. Anna Kubishta.
Votre film s'appelle Ni à vendre ni à louer. Alors c'est un film un peu particulier dans sa forme puisque c'est un film sans dialogue. En tout cas, ça ne veut pas dire que c'est sans son, évidemment. Ce sont en fait des petites scénettes, des espèces de petits tableaux, je dirais, qui mettent en scène justement les différents personnages de votre film. Est-ce que c'est parce que vous venez du monde de la BD que vous avez choisi cette forme-là ?
C'est parce que je viens du monde de la BD que j'ai voulu faire un film qui soit spécifiquement un objet cinématographique. C'est-à-dire, je pense pas que ces histoires, parce que c'est l'histoire de six histoires qui se croisent le temps d'un week-end, donc c'est une interpénétration d'histoires qui reviennent les unes. C'est vraiment monté en cut. On a vraiment beaucoup de petits éléments qui arrivent tous à un moment donné qui va être le pic, qui va être une tempête dans la nuit, puis qui va redistribuer un peu les cartes. Mais c'est, je dirais que oui, venant du dessin, des arts plastiques, j'avais envie de faire des images qui soient cadrées, qui fassent sens, puis qui soient plastiques. Mais je pense que cet objet ne pouvait exister qu'en audiovisuel, parce qu'il y a beaucoup de travail sur le son, beaucoup de hors-champs qui sont créés par des bruits de vaisselle ou des déplacements. On a beaucoup travaillé sur l'épure de ce côté-là, pour justement que chaque son fasse sens. Au départ, je pensais partir sur quelque chose d'un peu plus naturaliste. Je parle en termes d'ambiance sonore. Puis finalement, on a décidé d'écrémer et de privilégier, je dirais, le côté un peu décalé et le côté un peu surréaliste.
Alors le côté décalé, surréaliste, évidemment, on pense, et vous le dites d'ailleurs vous-même dans certains entretiens que j'ai pu lire ou entendre en tout cas, la référence à Tati, évidemment, à Jacques Tati est évidente, d'une part parce que ça se passe au bord de la mer. D'ailleurs, le titre, étonnamment, en anglais, je ne sais pas ce que vous en pensez, Holidays by the Sea, ou fait référence évidemment aux vacances de Monsieur Hulot. Est-ce que, évidemment, c'est une de vos inspirations ? Est-ce que vous en avez d'autres aussi pour ce film ?
C'est une des inspirations. Maintenant, il y en a pas mal d'autres. Ça va dans tous les cinéastes burlesques jusqu'aux cinéastes poétiques, parce que des gens comme Pelé qui avait fait l'acrobate sont en fantôme aussi, des gens comme Jacques Demy. Je me sens presque plus proche de Pierre Etex que de Tati, parce que Tati était vraiment un cinéaste de la société. C'était vraiment ça qui était vraiment le personnage. C'est l'individu qui est perdu à l'intérieur de la grosse machine. Et Tex était plus dans l'intime. Donc moi, je me situe un petit peu entre les deux. Mais quand on était sur le plateau, je pensais beaucoup à Coris Maki, justement, sur un jeu d'acteur retenu, sur quelque chose qui soit de l'ordre du jeu pudique. Et là, c'est pas... J'étais quand même assez éloigné de ce que faisait Tati sur un peu le travail du corps, très en pantomime, très comédia dell'arte. J'avais envie quand même de garder un côté très, très réaliste dans les sentiments.
Très réaliste et très pudique, mais en même temps, il n'y a pas de dialogue. Donc il faut quand même que les acteurs jouent de leur corps, en tout cas des expressions du visage, des sons également. Comment est-ce qu'on dirige des acteurs qui ne parlent pas finalement ?
La chose a été, c'est-à-dire qu'elle m'a sauté aux yeux très rapidement. C'est la première journée, je me suis aperçu que on avait, en supprimant l'oralité, finalement, on amenait le spectateur à regarder plus ce qui se passait dans le cadre, et que fallait freiner un peu les acteurs, parce que eux pensaient, comme moi, qu'en supprimant une source d'information, il fallait compenser par un surjeu ou par un jeu un petit peu plus marqué. Et il s'avère que ça a été l'inverse, c'est-à-dire que dans le cadre, c'est ce que je disais, Tati aurait fait un film, il a fait Les Vacances de Monsieur Hulot, il aurait repris le scénario, il aurait toujours été 2 mètres plus loin que moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très très éloigné du corps, est très très éloigné des expressions. Il ne joue pas sur le visage, il joue sur un corps qui se déplace. Nous, On avait décidé de partir quand même, d'ouvrir un peu le champ des possibles en faisant à la fois des plans rapprochés, des plans moyens et des plans larges. Mais du coup, sur tout ce qui est plan rapproché, on s'aperçoit que la moindre inflexion du visage prend des proportions énormes, parce que justement la parole ne va pas nous enlever une partie de cette attention-là. Et du coup, c'est vrai qu'avec les acteurs, on a déstabilisé plus d'un pendant les deux premiers jours. Et puis, au vu des rushs, ils se sont dit, mais t'as raison, enfin, il faut quand même qu'on freine un peu le jeu et qu'on soit, non pas dans l'économie, mais dans une certaine retenue.
Et est-ce qu'il y en avait parfois qui avaient envie de parler ou ça sortait tout seul, par exemple? Est-ce qu'il y a des moments comme ça qui peuvent se produire?
Il y a eu quelques paroles qui s'échappent. Et après, on s'est aperçu aussi au montage que comme c'était pas non plus un cinéma dogmatique, qu'on pouvait s'en servir pour donner justement du relief à la bande-son, pour essayer de créer du rythme. Et du coup, on a t'en regardes, t'as vu, oh, allô. Enfin, du coup, ça reste des petites choses qu'il n'y a pas besoin de traduire, mais je voulais vraiment que ça soit le corps qui soit en avant et le corps dans un environnement. La parole, on a fait en sorte de l'évacuer totalement, mais de garder quand même ses trucs qui peuvent être compréhensibles aussi bien en France qu'ici ou qu'en Russie ou qu'en Chine.
Du coup, c'est un film qui peut s'exporter facilement finalement.
Ah bah ça, on verra. Ça reste un film français quand même parce que c'est un regard sur une certaine classe sociale qui part en vacances et puis sur des lieux qui sont de topographie qui sont françaises. Mais il y a une identité française, ça c'est évident. Maintenant, je pense que c'est quelque chose, c'est un regard aussi sur des gens qui partent en vacances. Donc en effet, j'espère que ça pourra intéresser d'autres personnes que les Français.
Comment est-ce que vous êtes arrivé, vous, personnellement, de la BD au film? Qu'est-ce qui vous a tenté dans cette aventure-là? Vous vous êtes dit du jour au lendemain, je veux faire aussi du cinéma.
Je suis rentré aux Beaux-Arts, moi, dans les années 80. À l'époque, la bande dessinée n'était pas en odeur de sainteté dans les écoles d'art. C'était même considéré comme un sous-genre. Et du coup, on m'avait demandé, moi, si je voulais rester dans les murs, de faire autre chose. Je me suis orienté vers la gravure, mais j'avais besoin de raconter des histoires. Et du coup, on m'a permis de faire deux courts-métrages à l'intérieur de ces 5 ans d'études. Donc j'avais titillé un peu à la pellicule, c'était du Super 8, mais j'ai été touché aussi à la vidéo. Et en 96, j'ai remis un peu les couverts en faisant un court-métrage avec Zamparouti, qui est chef d'écho sur les deux films que j'ai réalisés. Et puis on a recommencé, on faisait un petit film tous les 5 ans, un bout de reportage. Et puis à un moment, j'ai décidé de passer un peu plus le cap. J'ai réalisé un moyen métrage qui s'appelait Cavalier Facile, mais avec des bouts de ficelle, vraiment un bricolage assez... Enfin, c'est vraiment du bricolage, c'est un côté très très amateur. Enfin bon, ça me travaillait beaucoup. Et puis j'ai sorti un livre qui s'appelait Les Petits Ruisseaux. Et ce livre a été remarqué par un jeune producteur, Xavier Delmas, et puis un plus ancien qui s'appelle Jean-Louis Lévy. Ils m'ont contacté pour savoir si j'étais prêt à lâcher la chose pour que ça passe sur les écrans. J'ai demandé à être à l'écriture, ce qu'ils ont accepté. Et puis, de fil en aiguille, c'est Xavier qui m'a proposé de passer derrière la caméra. Ce que j'ai accepté tout de suite.
Et alors, justement, avec... Si vous comparez les deux genres, qu'est-ce qui vous plaît finalement dans la BD? Qu'est-ce qui vous plaît dans le cinéma? Quels sont les ponts, les passerelles que vous retrouvez de l'un à l'autre?
Oh, les passerelles, elles sont courtes. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a moins qu'on croit. Si on est chacun d'un côté de la rivière, les deux genres. La bande dessinée, c'est de la littérature en images. Le cinéma, c'est beaucoup plus près de la musique que de la littérature. C'est une histoire
de la musique.
Oui. Pour moi, c'est une histoire de rythme. On a besoin d'avoir des images qui fassent... On fait du sens, on fait de... Mais c'est presque une chanson. C'est une histoire qui est racontée sur un temps imposé, ce qui n'est pas le cas du livre, où le lecteur va pouvoir prendre son temps, va pouvoir...
Poser
le livre. C'est un dialogue. Le cinéma, c'est quand même un truc de... On regarde ça en groupe, et puis on est face à quelque chose qui est... qui est en temps non dilaté ni non dilatable. Et du coup, j'ai l'impression que je passe d'un bord à l'autre, mais pas par des ponts, en faisant des bonds et en essayant de ne pas me ramasser au milieu de la rivière. Mais les deux m'apportent des choses différentes, c'est-à-dire que La bande dessinée a ça d'extraordinaire, c'est que on doit rien à personne. Et puis le cinéma a ça d'extraordinaire, c'est qu'on doit tout à tout le monde. Et donc c'est deux plaisirs qui sont complètement différents. Il y a un plaisir de groupe et il y a un plaisir... Je comparais ça un peu à la bande dessinée. Pour moi, c'est un feu de cheminée. Le cinéma, c'est un incendie. Après, il n'y a pas d'échelle de valeur. C'est-à-dire qu'on a peut-être... Il y a des braises qui se gardent plus longtemps dans la cheminée que dans un feu de forêt. Mais c'est du coup, vous voyez, c'est un rapport, il y a un rapport beaucoup plus intime et qu'avec le cinéma.
Alors, je pensais à Marjan Satrapi, Johan Sfar, qui sont également des dessinateurs de BD qui passent aussi derrière la caméra. Est-ce que ce serait une tendance finalement que les dessinateurs de BD passent derrière la caméra ces derniers temps?
Il y a une tendance, on peut rajouter Riyad Satouf qui a sorti un film il y a 2 ans. Je ne sais pas si c'est une tendance, je pense qu'il y a eu tout d'un coup, pour les quatre, je crois que ça s'est passé de la même façon. Moi, je ne connais pas, je connais Johan, on s'est croisés, mais je ne connais pas plus que ça. Mais je crois que notre histoire a été identique, c'est-à-dire que on est venu nous chercher et on a accepté. On est arrivé plus ou moins vierge dans ce domaine. C'est pas les petits courts-métrages moi qui me rendent qui font que j'ai une expérience, c'était déjà du bricolage, donc c'est autre chose, mais on est arrivé assez décomplexé dans le support en se disant bah voilà, on n'est pas pollué terme un peu fort, mais on avait envie de faire et on n'était pas avec les codes de on traverse pas l'axe, on fait et puis on essaie de faire à l'énergie. Donc ça a été un petit peu je pense que ça a été un petit peu le cas de nous quatre, quoi. On est venu nous chercher et on a dit oui en se disant bah voilà, et avec cette différence peut-être avec une génération antérieure, je pense à des gens comme Lozier, où pour Lozier le cinéma était du grand art et la bande dessinée était vraiment pis-aller, quoi. Pour moi comme pour les trois autres, je pense que c'est pas du tout le cas. Moi je me suis exprimé d'abord par le dessin, c'était un besoin, c'était une vraie envie, et je continuerai à faire de la bande dessinée parce qu'en effet pour ma chapelle ça reste un art aussi intéressant et aussi passionnant que le cinéma. Il faut simplement savoir ce qui se prête le plus à un genre et ce qui se prête le plus à un autre.
C'était le réalisateur français Pascal Rabaté, venu présenter au festival de Karlovy Vary son film Ni à vendre ni à louer. Il répondait aux questions d'Anna Kubishta.